Autour de moi dansent tous mes potos pour mon dernier tour complet. Je veux tout le monde sur la photo. Je suis malade mais fair play. Mon frangin que
bonjour à tous et à toutes, il est 19h sur le 101.5 de Radio G. Et l'heure que vous voulez, si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr, c'est l'heure de la case de Seb. Au programme ce soir, des contes, du jeu de rôle, du bizarre, de l'art, c'est un peu pareil des fois, de l'espace, des animaux, des sales gosses, une interview et un invité. Attention, générique.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bonsoir à tous et à tous et bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du comics. Seb au micro et nous sommes ensemble pour une heure et j'espère que nous passerons un bon moment en ma compagnie. Et j'ai le plaisir ce soir d'être accompagné par Luc Douin qui me fait le plaisir de me tenir compagnie, mais pas que. Bonsoir Luc.
Bonsoir Sam, comment ça va?
Eh ben ça va, une émission où pour une fois je ne serais pas tout seul. Ça faisait un moment que je n'avais pas eu quelqu'un pour m'accompagner. Alors, c'est un petit peu comme d'habitude, moi je vais avoir une partie un peu freestyle. On va avoir une interview tout à l'heure, une interview pour la sortie d'un livre qui s'appelle Sami Parade, qui est sorti il y a un petit moment, mais j'avais eu l'occasion d'interviewer Tony Emerio et Dominique Hennebeau, les auteurs de l'album, qui ont fait une interview à leur image. Je vous laisserai la découvrir tout à l'heure. Luc, tu nous feras une critique d'un roman issu d'un manga, c'est bien ça?
C'est bien ça, un roman de Nisi Oizin, oula j'ai du mal, qui s'appelle Nise Monogatari.
Nise Monogatari, c'est ça? Ah ouais, c'est pas évident à prononcer.
Oui.
Eh ben écoute, on va découvrir ça tout à l'heure. Pour ma part, donc comme je vous ai dit, j'ai plein de choses en fait à vous parler. Je vais commencer avec une BD jeunesse qui s'appelle Bienvenue à Bizarreville. C'est de Thor Freeman. Alors Thor Freeman, c'est une femme. Je vous que le nom m'aurait pas forcément laissé le deviner et c'est publié aux éditions Sarbacane. De quoi ça parle? Alors ça parle d'un monde où les officiers de police sont des animaux. Alors il y a un gros chat. Ça, j'ai identifié le gros chat, mais la chef de police, j'étais pas tout à fait sûr de savoir ce que c'était comme animal. Je pense que c'est un petit cochon ou une petite souris. Je suis pas tout à fait sûr. Luc, ton avis? C'est cochon ou souris ça?
Ça, c'est un cochon. Hein.
C'est un cochon avec le nom, mais la queue.
Oui. C'est un couri ou un souchon.
Ouais. On va dire un souchon. J'aime bien. Ça me rappelle quelque chose, mais je veux pas. On va éviter de se prendre un procès. Et du coup, ce sont des histoires courtes, en fait, où ces deux personnes qui font partie de la police vont mener des enquêtes. Alors, on va avoir des enquêtes qui vont être très proches de thématiques un petit peu. La première enquête, ça se passe dans un manoir hanté. Ça fait très Sherlock Holmes, je trouve, avec une malédiction qu'il va falloir lever. Alors, du coup, ils ont une espèce de bonhomie, ces personnages, qui font que ils vont résoudre les enquêtes malgré eux, et c'est super agréable, c'est super rigolo. Graphiquement, on est sur quelque chose d'assez souple, assez rond, c'est très enfantin. Il y a beaucoup de blagues, alors ça fonctionne presque par petits segments. C'est-à-dire que même s'il y a une continuité d'histoire, on va avoir des micro-histoires dans l'histoire avec une petite blague à ce moment-là. Et ça marche très très bien. J'ai le casque qui part en vrille, je suis désolé. C'est très drôle. C'est pas du gag où on va rigoler comme des fous, mais il y a plein de petites d'humour, c'est des personnages qui sont très attachants. Le chat parle souvent de sa famille, de son tonton. La petite Souchon fait des cauchemars, des choses qui sont un peu bizarres des fois, mais qui arrivent à nous projeter à fond dedans. Je peux pas vous donner un avis d'enfant parce que je sais pas ce que ça. Ma fille a pas encore eu le temps de le lire. Je pense que quand je vais rentrer à la maison, elle va me dire « Hey, papa, t'as parlé de ça, ça avait l'air bien, tu veux pas me le faire lire ?» Donc moi je dirais pourquoi pas. Donc voilà. En tout cas, j'ai passé un très bon moment. Ça finit par quelques pages de jeu qui peuvent permettre de faire des mots croisés. Vous trouverez pourquoi il y a des mots croisés en fait dedans. Et puis il y a des petits indices qui font référence à chaque fois aux enquêtes des policiers, ce qui rend l'ouvrage très plaisant et très ludique pour les enfants. Et c'est vraiment sympa. Je leur donne les références. Il s'agit de Bienvenue à Bizarreville. C'est de Thor Freeman et c'est aux éditions Sarbacane. Luc, est-ce que tu veux prendre la suite ?
Bah écoute, ouais, si tu veux, puisque tu m'as invité à venir dans cette émission pour essayer de peut-être de donner une autre voix, de permettre aux auditeurs d'entendre une autre voix. Oui, bien sûr, je peux prendre la suite. Voilà, on a échangé depuis un moment. Ça fait quand même quelques mois qu'on a échangé. On a discuté l'hypothèse d'ouvrir quelque chose dans la case de Seb.
Mais ce qui est, c'est qu'on a en plus des choses qui sont transverses. Il y a beaucoup de romans qui sont adaptés en BD ou des BD qui sont adaptés en romans.
Ouais.
C'est pour ça que je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Alors je dois aussi te rendre l'appareil, je suis toujours en retard.
Oui.
J'ai promis que je ferais quelque chose.
Mais, ben écoute, moi j'ai commencé. Alors c'est un truc qui m'était jamais arrivé encore. Hein. J'ai dû me livrer à un exercice très étrange. J'ai lu donc Nisei Monogatari de Nisio Izin. Voilà, c'est un auteur japonais. C'est une littérature que moi je connais pas du tout. C'est une plongée dans un genre et dans un univers qui me sont totalement étrangers. Et avant d'aborder en fait le fond, je vais d'abord essayer d'en faire une présentation. Déjà, il s'agit d'un roman. C'est le deuxième volume des aventures de Koyomi, un adolescent japonais. Koyomi, il a environ 16 ans, il est le frère aîné de Karin et de Tsukii, qu'il surnomme les Fire Sisters. Dans le premier tome de ses aventures, Koyomi a rencontré Oshino, une espèce d'ermite dotée de super pouvoirs qui habite maintenant son corps. Personne ne peut la voir, mais elle l'aide quand il est en difficulté. Dans ce roman, il doit secourir sa sœur Karen, qui a été contaminée, envoûtée par un être maléfique, moitié vampire, moitié escroc, Daishi Kaiku. Ce personnage rackette l'argent de poche des collégiens en les menaçant de leur infliger l'essaim de braise, un maléfice qui donne une fièvre terrible qui peut conduire à la mort. Le roman commence par une scène où Koyomi est retenu prisonnier par Itagi Senjogahara. Tu reconnaîtras, Seb, que je fais un effort sur la prononciation des noms japonais.
Tu te débrouilles beaucoup mieux que moi.
Itagi Senjogahara, une adolescente comme lui, dont on découvrira paradoxalement qu'il en est amoureux. Mais cette scène d'ouverture conduit à un flashback qui explique pourquoi Senjogahara le retient prisonnier. Elle a elle-même été victime de Daishi Kaiku et elle veut le protéger. Quand je dis que le genre et l'univers me sont totalement étrangers, c'est que je lis pour la première fois un manga. Tous les codes sont présents. Vers la fin du roman, par exemple, lors du combat entre Koyomi et Karen, vrai moment de bravoure scénaristique, on voit les images défiler en noir et blanc, en bord perdu comme il est de tradition dans la mise en page des mangas, y compris avec les onomatopées. Mais ma difficulté est que l'on est bien dans l'esthétique d'une forme de littérature japonaise bien loin des auteurs classiques que j'ai l'habitude de fréquenter. Je pourrais citer Kenzo Buro Oe, Haruki Murakami ou, mieux encore, Yukio Mishima. Le public de ce roman, je n'arrive pas à le saisir. On est dans l'imaginaire total, mais ce n'est pas pour des enfants. On est dans l'aventure fantastique, mais ça me semble décalé par rapport aux préadolescents. On est dans un érotisme que je qualifierais de libidineux produit par des fantasmes d'hommes adultes, mais le second degré, les jeux de mots, y compris les références historiques, font qu'il ne peut concerner des adolescents. Il me semble qu'il s'agit donc d'un roman qui s'adresse à cette nouvelle catégorie qu'on appelle adolescent. L'image qui est donnée du Japon est loin du Japon traditionnel avec sa lenteur, ses kimonos et ses traditions. C'est plutôt l'image idéale typique d'un Japon hyper urbain, habité uniquement par des adolescents, qui participerait à une manifestation de cosplay. Dans Nisō Monogatari, les personnages vivent leur vie, les parents ne sont jamais là. Pourtant, cet univers hyper moderne peut aussi nous surprendre, nous occidentaux. Bien qu'il s'agisse d'un monde habité uniquement par des adolescents, ces adolescents ont une vraie connaissance de l'histoire ou de la culture du Japon. À plusieurs reprises, ils font référence avec respect à des légendes japonaises ou à des grandes batailles historiques. Enfin, référence culturelle qui nous est plus familière, c'est le personnage de Daishi Kaiku, ce vampire maléfique. Il n'apparaît qu'à peu de reprises dans le roman, mais on ne peut s'empêcher d'avoir en tête les images du comte Dracula, joué par Klaus Kinski dans le Nosferatu de Werner Herzog, film de 1979. Ce qui est déroutant dans ce manga, c'est que l'action ne commence réellement qu'à la moitié du livre. Une fois le flashback révélé, et puis aussi les dialogues, ils sont quasi permanents. Tu vois, comme je te le disais en introduction, Seb, étrange roman que ce Nisō Monogatari. Il est du japonais Nishio Ishin, renommé Nisi Oizin, et ce qui fait un palindrome, puisqu'on peut lire le nom dans les deux sens. Depuis le 2002, il a publié beaucoup. Nisō Monogatari a été publié au Japon en 2008 et seulement en France cette année. Il est le quatrième opus de la série. Nisi Oizin dit dans la postface qu'il l'a écrit sans avoir l'intention de le publier, juste pour le plaisir de l'écriture. Et à mes yeux, peut-être, ça aurait été mieux. Alors la seule question que je me pose, c'est à qui peut-il bien s'adresser ?
Alors, j'ai pas forcément de réponse à cette question. Mais je sais juste qu'en fait, la série des Monogatari, donc c'est l'histoire de, en traduction japonaise, c'est à la fois un animé qui a bien fonctionné, à la fois une série de mangas qui, de mémoire, devait être disponible aux éditions Pika, et qui avait aussi été confiée à un illustrateur qui est sorti du domaine érotique à la base. Donc, il y a peut-être une convergence d'éléments qui donne un petit peu un élément de réponse sur à qui se destine cet ouvrage. Je pense que la réponse, tu l'as donnée, c'est à des adultes qui ont gardé une âme d'adolescent, donc des adolescents.
Oui, je pense vraiment. Donc, tu m'as là plongé dans un univers littéraire qui m'était, mais alors complètement étranger, mais totalement étranger. Et puis, comme on l'a dit, moi je vais revenir te rendre visite une fois par mois.
Avec plaisir.
La prochaine fois, écoute, ce sera encore une expérience littéraire que je n'ai jamais vécue. C'est le tome 1 des Chroniques de la Lune Noire, qui est une adaptation, en fait.
D'un gros cycle de BD, ouais.
Voilà, d'un gros cycle de BD. Donc, j'entre dans les Chroniques de la Lune Noire et je viens t'en parler dans un mois.
Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Et puis, j'ai hâte de savoir ce que ça donne, en fait, d'avoir ton avis sur cette adaptation. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, Luc. Ouais. Ça a été un grand plaisir de t'avoir ce soir avec moi. Et pour la pause musicale, je propose d'écouter le quatrième opening de la série Bakemonogatari, dont découlent les ouvrages. Je le mets en version longue, comme ça je peux couper un peu quand je veux.
しないよ。
De retour sur le 101.5 de Radio G. C'était Renai Circulation de la chanteuse Kana Anazawa et c'était l'opening, le quatrième opening de la série Bakemonogatari. N'hésitez pas à aller la voir ou à lire. Je vais même pas être capable de le redire. Hein. Nisei Monogatari, bah si, c'est facile. De Nisi Oizin, ouais, c'est le nom de l'auteur qui est plus compliqué. C'était le roman dont a parlé Luc il y a quelques instants aux éditions Pika. Là, je vais vous reparler de quelque chose de très angevin, de très agréable. J'aime bien parler des copains quand ils font des trucs bien. J'aime bien aussi parler quand ils font des trucs moins bien, mais en général, je le dis pas. Et là, ils ont fait un truc complètement dingue. Quand je parle des copains, là, je parle de Tony Emerio et Dominique Enbo. Et ils ont publié aux éditions Monsieur Popcorn le fameux Samy Parade, hein, un projet que j'ai entendu, dont j'ai entendu parler la première fois de la voix de Tony et qui a eu une gestation longue, mais qui valait vraiment le coup. Une œuvre un petit peu barrée. Mais du coup, je vais vous laisser écouter une interview de Dominique Enbo avec un petit peu de Tony Emerio à la fin et puis vous allez voir, on fera une petite critique juste après.
Je suis dessinateur de BD et qu'est-ce que je dois dire, quoi, que d'où je viens, tout ça
un petit peu rapidement.
Ouais, bah je viens du nord. Voilà, région hostile, donc ça fait 4 ans que je suis à Angers et puis j'ai toujours fait de la BD. Je suis passé par les Beaux-Arts de Tournai avec Antonio Cossu comme prof. Alors je sais pas si ça vous parle, mais c'est un ancien de chez Spirou, enfin Métal Hurlant, tout ça. Et puis après, voilà, enfin, j'ai commencé à faire des bouquins, à bosser un peu pour Psychopathe, Fluide Glacial, voilà. en gros.
Et qu'est-ce qui t'a orienté vers la bande dessinée?
Je crois que c'est sur le divan d'un psychanalyste qu'il faut répondre. Non, mais franchement, tout ce qui est les tuniques bleues, Lucky Luke, c'est ça qui m'a amené à la BD. C'est l'envie de faire la même chose. Quoi. Après, je répète aussi que je viens du Nord, et puis comme c'est une région hostile, il faut trouver des occupations et des trucs pour s'évader du quotidien qui est sombre et voilà. Non, enfin, je déconne, hein, mais voilà. Non, bah, c'est l'envie de faire pareil, quoi, je crois. De revivre des plaisirs de lecture et puis de faire de la bande dessinée. Bah, on commence à copier Lucky Luke, nos lectures, quoi. Puis après, on en vient à essayer de faire bricoler nos propres trucs, quoi.
Est-ce que tu peux nous faire un retour sur ton parcours au niveau BD? Tes anciennes publications, comment t'en es arrivé à Samy Parade aujourd'hui?
Alors j'ai commencé chez Bambou, dans une collection qui s'appelait Angle de vue, qui n'existe plus maintenant. C'était une collection qui se voulait, qui proposait des trucs contemporains, des reportages, pas foncièrement en lien avec l'actualité, mais avec une espèce de journalisme et de témoignage, tout ça. Et j'avais fait Bouclier humain avec Xavier Bétaucourt, où il y a eu deux tomes. Et après, on a enchaîné sur Sergent Mastoc, toujours chez Bambou, qui était une parodie des BD de guerre. Et j'étais dans Psychopathe pendant longtemps. J'ai pas mal publié dans Psychopathe. Une petite incartade dans Fluide. Et après, il y a eu le magazine Arg. Je sais pas si. Ouais, Arg. J'avais l'impression d'être à la maison, moi, dans ce magazine. Et j'ai pu faire plein d'histoires courtes qui ont été réunies aussi en bouquin. Alors, ça s'appelle Les Désaxés. Ça s'appelle toujours Les Désaxés. Donc c'était des histoires en noir et blanc, un peu sombres, mais un peu rigolotes quand même, quoi. Enfin, un truc. Et après, j'ai une aventure un peu compliquée avec aussi des histoires courtes qui ont été publiées dans Arg, mais c'était des westerns cette fois-ci. Et donc il y a eu un album, mais très 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 confidentiel, et qui s'appelait Rio Barjo. Et après j'ai rencontré Tony et là donc on a enchaîné sur Drunken George et après Samy Parade, et maintenant on prépare un bouquin chez Dargo qui s'appelle Bande de Pirates.
Okay. Une prédilection pour l'humour, toujours au dessin ou
alors,
un peu de scénar quand même?
Un peu de scénar quand je fais mes histoires courtes, quoi. Là j'ai reproposé des trucs à Fluide qui m'ont pris quelques histoires et là j'écris, ouais. Prédilection pour l'humour, oui, parce que dès que j'essaye de faire quelque chose de sérieux, je voudrais bien me coller un western, un vrai et tout, avec des problématiques western, mais tout de suite ça part en couille, enfin, sans vouloir dire de. Enfin, si, j'ai dit un gros mot. Ça se barre en cacahuète, quoi. Alors, j'arrive pas à faire quelque chose de sérieux. J'aimerais bien, hein, mais visiblement c'est mon ADN, quoi. On peut pas lutter contre, quoi.
Au niveau de méthode de travail, comment tu travailles? Que du traditionnel, du numérique?
Pour Samy Parade, c'est du numérique, hein. Enfin, le dessin est fait sur une feuille de papier, ancré aussi. Après, les couleurs, c'est numérique. C'est essentiellement numérique. Après, ça dépend pour les élus, tout ça. J'ai un peu trifouillé un peu à tout, acrylique, aquarelle. Enfin bref, je veux pas me la jouer, hein, mais... carte à gratter, pastel. Non, ça dépend de. Ça fluctue, c'est changeant à chaque fois. J'aime bien essayer des trucs, hein, ça c'est clair. C'est aventureux, quoi. Enfin, quand on se coltine à quelque chose qu'on n'a jamais fait, on est tout excité, là. Après, on voit vite ses limites, mais. Mais en général, je creuse un peu et puis voilà. Après, je passe à autre chose. Enfin, c'est quand même de l'ordre de l'amusement aussi. Hein.
Beaucoup d'expérimentation justement pour un truc un peu fun ou
Ouais, essayer de trouver quelque chose. Il y a des tas de façons de faire quoi. Mélanger des lavis, des acryliques, des aquarelles, enfin, des crayons. Il y a toute une cuisine quoi.
Et plus largement, la méthode de travail avec Tony, comment ça se passe? Tony, il envoie le scénario et tu as déjà un cadrage précis ou au contraire, tu t'es...
Non, on fonctionne... je dirais qu'on fonctionne plutôt en ping-pong, hein, c'est vraiment ça, quoi. On discute, après Tony, il écrit, et puis moi, en général, je lui casse les noix, en fait, j'avoue. Je lui dis ah ça pourrait pas faire ça gnagna. Puis lui et comme la collaboration marche très très bien on s'entend sur ce qu'il y a à faire et puis et voilà après moi je fais mes planches et puis si Tony il a un truc à dire c'est nul je l'entends et puis voilà ça fonctionne bien quoi.
Il y a un regard sur le scénario un petit peu ou au contraire
Il y a forcément un regard parce que c'est pas pour ramener mon grain de sel hein. Je dis tout souvent des trucs et des parce que je mets en scène et forcément ce qui est la matière brute de l'écriture pour la mettre en image c'est pas pareil quoi. Il y a un travail à effectuer au niveau de la mise en scène et tout ça. Donc des fois ça marche pas, il faut réinterpréter et tout ça. C'est comme un scénariste de cinéma, il s'attend pas à voir le truc qu'il a écrit sur l'écran quoi. Ça a changé quoi. Après le fond ne change pas, hein, mais c'est juste la mise en scène.
Et du coup on va arriver sur la fin de l'interview. Est-ce qu'on peut parler des futurs projets?
Les futurs projets, il y a ce bouquin chez Dargaud là, et Bande de pirates. On espère qu'on va en faire un deuxième, un troisième, un quatrième. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de. Enfin voilà, on se concentre là-dessus. Après, moi, je propose quelques trucs à Fluide. Pour l'instant, ils prennent. Et on va continuer aussi dans Fluide. Pour l'instant, ils n'ont pas passé grand-chose, mais bon, ils me prennent des histoires. Et voilà, enfin c'est eux les chefs, hein, ils décident de. C'est pas moi qui sais où foutez les gars. Enfin voilà. Le projet, c'est faire ce bouquin chez Dargaud, c'est un gros truc quoi. Voilà.
Et du coup la question la plus complexe, si tu devais donner envie aux gens d'acheter ton album plutôt qu'un autre.
Moi je dirais que c'est une BD de sale gosse. C'est pas un truc, il faut pas s'attendre à un truc crado ou harakiri ou je sais pas quoi hein, c'est pas le propos mais c'est pas très éloigné sans comparer hein, c'est pas pour c'est un peu cousin des Simpsons je trouve ouais. Enfin, un petit truc un peu à la Simpson hein. C'est une BD de sale gosse quoi. Moi j'aimerais bien que je serais ravi de savoir que des gamins se l'échangent ou la lisent à la récré, même si ça leur est pas destiné spécialement, mais quand on est gamin, on n'est pas idiot, on sait que les choses de la vie existent. Voilà, enfin, on n'est pas totalement protégé comme ça de tout. On aime bien, enfin voilà, les gamins ils regardent des films d'horreur. Et du coup, ça me plairait bien moi, de savoir que des gamins lisent la BD en récré ou je sais pas, qui se font même gauler par leurs profs. Qui se font punir, ça leur apprendra. Non, mais voilà. Du coup, oui, c'est une BD de sale gosse. J'espère qu'elle est amusante, quoi. Enfin, moi, je me suis bien amusé. Enfin, on s'est bien amusé. Voilà. Moi, je veux bien remplir pour un deuxième. Hein,
Est-ce que tu veux compléter, rajouter des choses?
Bah si en fait, parce que je prends le micro puis dis que non je veux rien rajouter, en fait je vais rajouter forcément des trucs. Non, c'est que c'est même si t'as dit que c'était une BD de sale gosse et c'est une analyse avec laquelle je suis complètement d'accord, ça reste quand même une bande dessinée pour plutôt ado adulte. Donc voilà, après effectivement le fait que ça se lise sous le manteau et que ça devienne un truc un peu subversif, c'est un fantasme d'auteur quelque part. Mais à la base c'est quand même prévu pour les adultes. Moi je me suis retrouvé avec un petit gamin de 8 ans qui l'avait acheté parce que ce jour-là particulièrement le libraire, oui c'est pas là en l'occurrence, le libraire n'aurait pas fait son boulot, et du coup, bon, c'est aussi à moi de prévenir et de dire effectivement, ce n'est pas forcément un livre qui est dédié aux enfants, même si les apparences peuvent paraître trompeuses de par la couverture. Mais ouais, je trouve que le bouquin, enfin, en tout cas, l'analyse livre de sale gosse, et en plus, on l'a vraiment fait comme des sales gosses, quoi. C'est-à-dire que la manière dont on l'a, nous, écrit, à deux, parce que même si c'est plus moi qui crédité au scénario, c'est vrai que, comme tu disais, c'est un ping-pong, c'est un échange quasi permanent de beaucoup de conneries. En fait, on jette énormément de choses, hein. Il y a beaucoup de pistes qui sont évoquées. On garde souvent le meilleur, enfin, en tout cas, ce qu'on considère, nous, être le meilleur. Et du coup, ça donne ce qu'on a là dans l'album à la fin. Mais ça se fait en fait beaucoup autour de pots en terrasse, de grosses marades, et puis voilà quoi. Donc c'est une chouette manière de faire ce métier là. Donc effectivement, comme disait Dom, si Kenneth nous donne l'occasion de rempiler, on rempilera avec plaisir, d'autant qu'on a déjà une idée, enfin toi t'as eu une idée en fait qui me plaît bien de il se rappelle pas de scénario pour le deuxième, donc on peut facilement faire une série avec ce petit personnage si tant est qu'il plaise au lecteur, évidemment. Sur Lola, c'est presque plus évident concrètement que c'est un truc qui est dédié aux enfants. Après moi j'ai toujours navigué entre deux eaux, hein. J'ai sorti Sticky Pants et en même temps Alice. Et je me posais vachement de questions. Comment ça va se passer dans les files d'attente de dédicaces, en fait, entre les pervers de Sticky Pants et les lecteurs d'Alice. Et finalement, ça cohabite très bien. Donc, non, en fait, moi, en vieillissant, j'assume plus facilement cette espèce de dichotomie où, du coup, tu te dis, tiens, je vais faire un truc jeunesse, tiens, je vais faire un truc adulte, j'ai pas envie de m'enfermer dans un genre en particulier, j'ai pas envie de faire les schtroumpfs toute ma vie. Après, Peyo a très, très bien vécu ce choix, hein, mais j'ai pas envie spécialement de m'enfermer dans un genre ni dans un lectorat en particulier. Et il y a de plus en plus d'auteurs contemporains qui font ça. Quand on voit Thébault par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, mais il fait Mickey et juste derrière il fait les fables avec du poil chez Fluide, et on est aux antipodes, et ça marche très bien. Les lecteurs sont capables de faire la part des choses et de comprendre qu'un auteur, bah, il passe par des envies, il passe par des... par des besoins, mais il passe par des phases en se disant, tiens, là, ce jour-là, j'ai envie de raconter telle histoire, et bah, l'autre jour, j'ai envie de raconter telle autre histoire. Voilà. Donc après, le problème majeur pour moi, c'est que je fais un peu tout en même temps. Donc il faut essayer de jongler entre tout ça, mais ça se fait, en fait. C'est une orga qui se trouve au bout d'un moment. Voilà, monsieur.
C'était Tony Meuriot et Dominique Hennebeau qui nous parlaient de leur ouvrage Samy Parade, publié aux éditions Kenneth, alors collection Monsieur Popcorn ou Monsieur Popcorn, je ne sais pas comment il le goupille, puisqu'effectivement les éditions Kenneth ne sont pas du tout mentionnées sur l'ouvrage, ou peut-être dedans. Bon, bref. Donc ça c'était la vie des deux auteurs sur leur petit bébé, un bébé, un sale gosse, hein. Je pense que là on peut tout résumer avec ce fameux sale gosse. Mais de quoi ça parle? Parce que ça effectivement on ne l'a pas abordé, j'ai oublié de leur demander, donc c'est moi qui vais vous l'expliquer. Eh bien l'histoire, c'est celle d'un petit garçon, un petit démon, qui dit à son papa, le grand Satan, « Bah écoute papa, les gens que tu embauches pour corrompre les âmes, ils sont nuls. Moi, je vais faire vachement mieux. » Donc, voilà. Et son père lui fait « Bah écoute, chiche. » Donc, il y va. Et il décide d'arriver sur Terre et de créer un magazine subversif qui va s'appeler Samy Parade et qui va corrompre les âmes de plein de gens. Et effectivement, comme le disait Dominique tout à l'heure, aussi des enfants qui vont se le passer sous le manteau, alors que ce n'est absolument pas destiné à leur âge. Un ouvrage qui va les corrompre, un ouvrage subversif, comme on disait, et qui va les corrompre. Ouais. Je récapitule beaucoup et je redis. Et en fait, c'est plein de... Donc il y a une histoire en continu, c'est pas un livre à sketch. On suit ce petit démon qui va tout faire pour arriver à ses fins. Tout faire, quitte à mettre des croche-pattes dans les jambes de ces démons... des autres démons, et c'est un cumul en fait de blagues, on va dire de mauvais goût, hein, puisque faut quand même l'assumer, et de blagues potaches. Il y a du pipi, il y a un peu de caca, il y a des poitrines féminines, et il y a beaucoup, beaucoup d'humour. C'est un humour qui est complètement barré. C'est pas du tout politiquement correct. Hein. Si effectivement vous en avez marre qu'on vous dise bah, comment penser, comment parler, là c'est pas du tout, ça va pas du tout dans ce sens-là. Donc allez-y, c'est vraiment de la bonne cam. Je l'avais qualifié de OVNI, ou du OVLI, objet livresque non identifié. Et effectivement, on est bien dans cette cam-là. Et je pense que si vous avez envie de vous marrer, si vous avez envie, pour une fois, d'être un petit peu bas du front et de pas vous prendre la tête, eh ben écoutez, allez-y, c'est vraiment fait pour vous. Le dessin de Dominique et les histoires de Tony, ils l'ont bien dit, hein, c'est un ouvrage qui a été fait en commun. Et ben, faut y aller et ça marche très très bien. Donc, allez-y. Mais par contre, le mettez pas à portée de vos enfants, hein, ou alors le mettez pas trop haut pour qu'ils puissent le prendre quand même sans vous avertir. Par contre, moi, je vous ai averti, c'est pas pour eux. Je redonne les références, c'est Semi Parade, sous-titré Le Diable est dans la classe, c'est de Tony Emerio et de Dominique Hennebo, les deux infâmes. C'est publié aux éditions Kenes, collection Monsieur Popcorn, je pense qu'on vaut mieux le dire comme ça. Et puis je voulais faire une pause musicale juste après et je ne savais pas comment faire une transition. Alors j'ai fait une transition qui est complètement absolument pas bonne. Vous m'en excuserez, mais je pense que c'est aussi une transition qui est d'aussi mauvais goût que certaines des blagues de Sammy Parade. J'enchaîne avec Sammy Davis Jr. et Mr. Bojangles.
I knew a man, Bojangles, and he danced for you. In worn-out shoes, with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. He would do the old soft shoe. He could jump so high. Jump so high, and then he lightly touched down. I met him in a cell in New Orleans. I was, well, I was down and out. He looked to me to be the very eyes of age. As he spoke right out, talked of life. Lord, he talked of life. Laughed, slapped his leg a step. He said his name was Bojangles. Then he danced a lick right across the cell. He grabbed his pants, took a better stance, jumped up high. That's when he clicked his heels. Then he let go a laugh. Lord, he let go a laugh. Shook back his clothes all around. That was Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Lord, he could dance. He told me of the times he worked for minstrel shows, traveling throughout the South. He spoke with tears of 15 years, how his dog and he, they just traveled about. But
good as dog up and died. Dog up and died. And after 20 years he still grieved. He said I danced now at every chance in honky-tonks. For my drinks and tips. But most of the time I spend behind these county bars. You see, son, I drinks a bit. Then he shook his head. Lord, when he shook his head, I could swear I heard someone say, please, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, come back and dance, 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 please dance. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, dance. Why can't you come back and dance? Please, Bojangles, dance again, Bojangles.
C'était Sammy Davis Jr. sur le 101.5 de Radio G avec Mr. Bojangles. J'avoue que j'adore cette chanson, ça me met des frissons à chaque fois. Bon, on est de retour sur le 101.5 de Radio G, c'est toujours la case de Seb. Et on va faire un petit passage vers toujours la jeunesse. On parlait d'œuvres subversives avec Samy Parade il y a quelques instants. On va parler d'œuvres subversives avec les contes que vous racontez à vos enfants, avec un ouvrage publié aux éditions Delcourt qui s'appelle « Et à la fin, il meurt », c'est de Lou Luby. Comment dire, c'est pas vraiment une BD. Moi, je considère que c'est plus un essai sur les contes, leurs origines, et ce que ça transparaît, de quoi ça parle. Bon, effectivement, hein, c'est format BD, alors c'est format plutôt livre de contes. On est sur un ouvrage qui est hyper joli, hyper quali, je trouve. On est sur une couverture dure, on est sur une petite dorure toute propre sur le dessus. De loin, je vous avoue que le dessin de couverture peut passer, mais effectivement, quand on voit un prince avec les yeux crevés, une princesse avec qui n'a pas de bras, et un petit chaperon qui a un sac qui a l'air d'être rempli de nourriture et un nain qui a l'air de vouloir nous dévorer, et ben ça fait pas très livre de contes. Mais effectivement, la tranche des pages est dorée, il y a un joli petit signet qui vous invite à la lecture et à le lire à vos enfants. Mais attention, non, absolument pas, c'est pas pour vos enfants. D'ailleurs, l'auteur Lou Luby le redit en page 7, si tu t'appelles Timothée et que tu as 8 ans, c'est le moment de changer de livre. Parce qu'effectivement, on va à l'origine des contes. Bon, vous savez que les contes, c'est vieux, hein. Tout le monde connaît forcément Grimm, Perrault, mais est-ce que vous saviez qu'avant, en Italie, vous aviez Guillaume Battista Basile qui raconte aussi certaines des histoires que vous avez connues? Et encore plus vieux, hein, au 9e siècle, eh ben, on retrouve des traces de certaines histoires que l'on connaît, comme Cendrillon par exemple. Mais au 9e siècle, ça fait vers 850, hein, et ça vient de Chine. Donc effectivement, il y a l'origine des contes qui est parfois assez différente. Eh bien, Lou Luby va nous faire parcourir tous ces contes qui ont drainé notre enfance et d'autres dans leur version originale, évoquant toutes les différences qu'il peut y avoir en fonction des différents contes, que ce soit Cendrillon, que ce soit Baba Yaga, que ce soit le petit chaperon rouge. Eh bien, on découvre différentes versions, différents items, des points de passage, les ressemblances de ces différents contes, et tout ça avec un humour volontairement trash, mais qui n'est certainement pas aussi trash que les contes eux-mêmes. Parce qu'effectivement, hein, est-ce que je vous spoil un petit peu, mais est-ce que vous saviez que le petit chaperon rouge, pour éviter de se faire boulotter par le loup, eh ben, elle a prétexté d'avoir une grosse envie pressante avant d'essayer de se bananer toute nue pour chasser par le loup? Eh bien non. Eh bien maintenant, vous le savez. Par exemple, réponse. Hein, réponse, tout le monde se dit, ouais, la petite fille avec les cheveux longs, séquestrée, c'était une princesse et tout. Non, en fait, non. Sa maman, elle voulait du persil quand elle était enceinte, et c'est pour ça que réponse a été maudite. Voilà. Mais je vous laisserai découvrir tout ça dans ce joli petit ouvrage. Quand je dis petit, hein, il y a quand même plus de 200, presque 250 pages à peine. Mais ça reste un bel ouvrage, très rigolo à lire, très détendant. Comme Samy Parade, le mettez pas à portée de vos enfants, c'est vraiment pas pour eux. Même si ça pourra que les instruire sur la façon dont ils doivent lire un ouvrage de conte, dont ils doivent comprendre la morale qui est inclue dans l'ouvrage. C'est vraiment très très sympa à lire. Je redonne les références, ça s'appelle « Et à la fin, il meurt ». C'est de Lou Luby et c'est publié aux éditions Delcourt. Et quand on parle de raconter des histoires aux enfants, eh ben faut savoir que les enfants finissent eux-mêmes par se raconter des histoires. Vous n'êtes pas censé l'ignorer. J'ai une deuxième émission qui parle de jeux de rôle, que vous pourrez retrouver d'ailleurs demain de 22 à 23 heures. Vous avez vu le petit auto-promo tout propre. Et d'ici, dans cette émission, je parle de jeux de rôle. Le jeu de rôle, ce sont des histoires que se racontent souvent des enfants ou des adultes, mais qui n'ont pas de trame fixe. Il y a des points de passage, mais les actions sont gérées par les joueurs eux-mêmes. Et je vais revenir sur un ouvrage dont j'avais déjà parlé il y a un petit moment. Un ouvrage de Kieron Gillen et Stéphanie Hans, donc Kieron Gillen au scénario, Stéphanie Hans au dessin, qui s'appelle Die. Die, c'est un jeu de mots en anglais, c'est à la fois le dé à jouer, le dé 6 qu'on va pouvoir utiliser sur les petits chevaux, mais également la mort. Et c'est un ouvrage qui parle à la fois de jeux de rôle et de mort. Et dans cet ouvrage-là, en fait, on suit plusieurs adolescents qui vont un soir, pour l'anniversaire de l'un d'eux, faire une partie de jeu de rôle très spécifique. Une partie de jeu de rôle créée par l'un des leurs, une partie où ils vont incarner des archétypes et qu'ils vont avoir chacun un dé pour pouvoir incarner cet archétype. Il faut savoir que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez certainement les dés 6 qui sont des dés normaux, des dés à 6 faces. Mais il existe aussi des dés 4, ouais, que 4 faces, des dés 12, des dés 20, il y a même des dés 30 et des dés 100 qui permettent de lancer des doses, des gestions d'événements aléatoires. Et ces 6 adolescents, lors de cette partie-là, eh ben, ils vont disparaître pour ne revenir que 2 ans plus tard avec seulement 5 personnes. Et cette 6e, bah, qu'est-ce qu'elle est devenue? Eh bien justement, pendant un long moment, personne ne va en parler. Et 30 ans après, eh ben, le groupe va se retrouver à l'initiative de l'un d'eux pour pouvoir aller chercher leur camarade qui est resté dans un monde de fantasy, un monde fantastique. Pourquoi je vous en reparle maintenant, et seulement maintenant? C'est parce que j'ai acquéri il y a très peu de temps le deuxième tome de cet album qui est publié aux éditions Panini Comics, et que ça ne devrait compter que 4 ouvrages. C'est vachement bien. Vraiment, on a un propos, une forme, tout est cohérent dans la gestion de cet ouvrage, de cette série. Et en plus, c'est fabuleusement beau. Le dessin de Stéphanie Hans, que je soupçonne quand même d'être en numérique, apporte quelque chose d'épique, mais à la fois d'intime, dans des choix qui peuvent être compliqués pour les personnages. Il y a une vie énorme il y a une espèce de cohérence qui se dégage de tous ces, de ce monde fantastique qui est énorme. Kieron Gillen, c'est quelqu'un qui a tout à fait compris ce qu'était le jeu de rôle, qui a compris comment présenter le jeu de rôle et comment le faire vivre et le faire comprendre aussi aux gens qui n'en font pas partie. Alors bien sûr, ça s'adresse certainement beaucoup plus à des gens qui font du jeu de rôle, qui pratiquent cet art ludique, mais ça s'adresse également à des novices avec des thématiques qui peuvent être très complexes et très bien travaillées. Après, on sait que Kieron Gillen, c'est quelqu'un qui a compris comment faire des choses contemporaine avec des mythes anciens, et encore une fois il le prouve avec cette série là qui est vraiment très très bonne. Je mentionne aussi au passage que non content de créer un univers cohérent et une bande dessinée très efficace, Kieron Gillen a décidé de décliner aussi cette histoire et cet univers dans un jeu de rôle qui est disponible gratuitement sur internet. Normalement ça ne sera pas inclus dans les ouvrages de chez Panini, mais peut-être simplement résumé de façon à ce qu'on puisse quand même avoir envie d'y accéder. Donc allez-y, c'est vraiment très bien. Si vous connaissez pas le jeu de rôle, allez-y. Si vous aimez le jeu de rôle, allez-y encore plus vite. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est d'avoir la suite pour pouvoir vraiment fonctionner. Et puis, qui sait, peut-être que si je me prends l'envie, je vous ferai découvrir le jeu de rôle qui est issu de cet ouvrage directement dans les Voies du Scénarium un mardi soir de 22 à 23 heures. Je redonne les références, il s'agit de Die, Mortal Fantasy, c'est de Kieron Gillen et Stéphanie Hans et c'est publié aux éditions Panini Comics. Avant de finir, j'avais annoncé plein de trucs et j'ai pas fait tout, on va partir avec des petits animaux, avec Cabo Caboche de Grégory Panation, d'après le roman de Daniel Pennac, et c'est publié aux éditions Delcourt. De quoi ça parle ? C'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir quoi ça parle. Cabo Caboche, en fait, ça parle d'un chien qui sera appelé le chien pendant tout le reste du récit, puisque sa petite maîtresse va l'appeler comme ça. Un chien qui est tellement moche, en fait, que ses maîtres, à la naissance, se sont dit, lui, on va pas pouvoir le vendre, on va pas pouvoir faire d'argent sur lui, parce qu'il est issu d'une race de chien qui, normalement, se vend assez cher. Et du coup, on va essayer de le noyer. Et il n'y arrive pas vraiment, puisque après l'avoir balancé dans une décharge et laissé pour mort, le chien n'est pas vraiment mort. Il va être recueilli par un autre chien, une vieille chienne qui vit là depuis des années, qui s'appelle Gueule Noire, et qui va lui expliquer comment survivre, comment utiliser ses talents, on va dire, de chien, pour pouvoir se faire adopter. De fil en aiguille, il va se faire accaparer par vous savez, les gens qui ramassent les chiens perdus, et puis il va finir en fourrière, j'avais perdu le nom, et en fourrière, contre toute attente, il va se faire recueillir par une petite fille qui s'appelle Pomme, et une petite fille qui va lui donner beaucoup d'affection, qui va lui donner son nom, le chien, contre l'avis de ses parents, et qui, une fois rentrée à la maison après les vacances, va complètement délaisser son animal. C'est un truc qui est assez dur, qui est poignant, puisque effectivement on s'attache à ces petites bêtes-là, et Pomme va le laisser. Et le chien va pas comprendre pourquoi on l'abandonne alors qu'on lui a fourni tant d'affection, et puis il va décider de fuguer. Et là, il va rencontrer un autre animal qui va lui expliquer aussi un petit peu les rouages de la vie avec les humains, que les humains, il faut peut-être aussi apprendre à les apprivoiser et à les dresser pour pouvoir recevoir de l'affection. Pourquoi c'est bien ? Parce que, c'est pas fini l'histoire, je vous laisserai la découvrir. Mais pourquoi c'est bien ? Parce que déjà, c'est un ouvrage de Grégory Panation, et Panation est capable de faire beaucoup de choses au niveau de dessin, et il a réussi à faire plusieurs albums sans texte, et ce qui est hyper agréable, c'est que on ressent cette expérimentation du sans texte, puisque certaines pages sont définitivement très lisibles, très propres, et se passent de texte avec une certaine fluidité, et c'est super cool. C'est vraiment très agréable. Et du coup, ça permet d'avoir vraiment une belle évolution et une belle histoire qui se déroule, qui peut se dérouler de manière accompagnée avec d'autres enfants, ou alors simplement avec des enfants qui savent lire et qui vont pouvoir comprendre tous les enjeux de cet album. Pourquoi cet album il est super cool? C'est parce que ça sensibilise aussi au bien-être animal. Parce que c'est pas parce qu'on veut un chien, c'est pas parce qu'on veut un chat ou un poisson rouge, hein, ils souffrent aussi, qu'on peut faire n'importe quoi, qu'on peut s'amuser. Et ça sensibilise à ça. Ça explique aux petits garçons, aux petites filles que les animaux, faut en prendre soin. Et pourquoi faut en prendre soin? Parce que c'est pas seulement nous qui dirigeons, qui dressons nos animaux, que eux aussi peuvent avoir des émotions et avoir envie de nous dresser. C'est vraiment très très bien. Je redonne les références. Il s'agit de Cabo Caboche d'après Daniel Pénac, de Grégory Panation, et c'est publié aux éditions Delcourt. That's all, folks. Et oui, vous venez de l'entendre, c'est Porky qui vient d'annoncer la fin de l'émission. On va dans quelques instants retrouver le gros bazar qui va mettre un gros bazar.
Bonjour.
Voilà, ils sont déjà dans le studio, comme vous pouvez les entendre. Ils sont pas très discrets, hein. Mais c'est pour ça qu'on les aime. Je vous donne rendez-vous la semaine dans 15 jours pour une nouvelle émission. Je ne sais pas de quoi on parlera. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Vous pourrez retrouver le podcast directement sur www.radio-g.fr d'ici quelques instants pour écouter l'émission quand vous le souhaiterez. Je vous souhaite une bonne soirée et n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent.
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Thank you.